France Inter.
Écrivain, esthète, essayiste, critique littéraire et chroniqueuse, Cécile Gilbert s'est intéressée dans ses écrits à Saint-Simon, Guy Debord, Laurence Sterne, Andy Warhol, Bret Easton Ellis, René Dommal ou encore Jacques-Alain Léger. Elle a signé la magistrale anthologie « Écrits stupéfiants, drogue et littérature » de Homère à Will Self, mais aussi romans, récits et préfaces qui donneraient le tournis à beaucoup d'intellectuels aux visées vaniteuses. Vous avez affaire à un esprit incandescent, pénétré de littérature, qui vous éclairera aussi bien sur Nabokov, Sacher, Mazoch, Piaf, Balzac ou l'artiste Nicolas Gilbert, son époux, et je ne révèle rien puisqu'elle a écrit dessus et elle en parle dans certaines interviews. C'est au cours de ces dernières années la troisième fois que je la reçois sur un thème à chaque fois différent. L'érudite, pudique et farouche semble accepter chaque année de se dévoiler un peu plus. Visuellement déjà, puisqu'elle a tourné dans Pacifiction d'Albert Serra, étant elle-même la première surprise, et frontalement, cette rentrée par l'écriture. On avait pu la connaître un peu à travers son récit Réanimation, inspiré du coma dans lequel était tombé son compagnon. On avait perçu son côté jouisseuse ayant flirté avec l'autodestruction, mais qu'étant la grâce dans l'introduction de son anthologie sur les drogues. Elle se livre enfin sans phare, mais sans pouvoir s'empêcher de se railler dès qu'elle devient trop sérieuse, dans le très beau livre autobiographique Feu Sacré, paru chez Grasset. Pour résumer, j'ai en face de moi une rockstar, Nietzsche et un sage indien dont la contemplation peut provoquer le syndrome de Stendhal. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Cécile Gilbert.
Bonsoir Eva Bester.
Alors avant de vous demander de m'épouser, je vais vous demander quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé.
Alors la dernière chose qui m'a enthousiasmé, c'est un livre que je viens de lire qui paraît là ces jours-ci, qui s'appelle La part sauvage de Mark Weitzman et qui est absolument excitant sur son amitié avec Philip Roth qui nous manque tant et sur le chaos du monde et les juifs et sa propre névrose. Et c'est un livre qui entremêle beaucoup de choses et qui est tout à fait fascinant, intelligent, que je recommande chaudement.
Il avait une émission sur France Culture et vous dites, Cécile Gilbert, qu'il est toujours dommageable de ne pas penser par soi-même et aux besoins contre soi-même. J'en parle puisque dans son émission, justement, il y avait un peu cette chose-là. Comment faites-vous pour supporter notre époque ?
Ouais, je m'en extrais parfois, je sais m'en préserver. Puis j'y plonge parfois parce que c'est quand même aussi fascinant et intéressant et ça donne à penser, mais il faut savoir couper aussi le circuit.
Comment on fait pour couper le circuit ?
On s'enferme chez soi.
Avez-vous l'impression d'arriver à vous dévoiler un peu plus à mesure que le temps passe ?
Sans doute, puisque j'ai écrit Feu Sacré, c'est pas un but en soi en fait de se dévoiler ou de. Mais je pense que je ne suis pas une romancière, donc je n'ai pas d'imagination pour écrire des romans. J'aurais envie de dire que si j'écris sur moi-même, c'est pour partager une expérience sans doute universelle. J'ai pas du tout envie d'écrire sur mes petites histoires. Mais surtout, c'est parce que, comme dit une femme que je vénère et dont je parle dans ce livre, Christina Campo, c'est parce que certaines choses, parce que je ne veux pas me détacher de certaines choses et certaines choses ne se détachent pas de moi. Et puis en plus, je pense que c'est en écrivant qu'on sait vraiment ce qui s'est passé.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Cécile Gilbert, ce qui frappe quand on étudie votre parcours, notamment scolaire, c'est que vous avez fait une prépa Henri IV, mais vous sortiez déjà beaucoup en faisant la fête. Vous avez fait un an de fac de droit, mais les bains douches et le palace en même temps. Une hypocagne abandonnée au bout de 2 mois pour entrer à Sciences Po dans l'espoir de préparer l'ENA, où vous avez échoué. Puis une licence de philo que vous entamez à la Sorbonne. Comment est-ce qu'on fait pour être une intellectuelle qui aime véritablement tout ce qu'elle apprend et une énorme fêtarde qui n'hésite pas à s'abîmer ?
En fait, je voulais faire des études entre guillemets sérieuses parce que je voulais déjà écrire à l'époque. J'ai voulu écrire quand j'étais adolescente et je considérais que j'allais pas en vivre. Ce qui n'était pas complètement faux. Et je me disais, si tu as un diplôme et que tu fais des études sérieuses, tu trouveras toujours de quoi te nourrir. Donc en fait, ces études n'étaient pas forcément des choses qui m'enthousiasmaient. les finances publiques, le droit public, préparer l'ENA, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Ceci étant, c'est pour ça que j'ai fait de la philo après, parce qu'une fois que j'ai eu mon diplôme de Sciences Po, je me suis dit maintenant je peux me faire plaisir en faisant de la philo, et faire de la philo à la Sorbonne, honnêtement, n'empêchait pas de sortir tous les soirs, puisqu'on pouvait arriver directement du palace dans l'amphi.
L'ENA, vous en rêviez pour être diplomate, pour pouvoir écrire à côté. Vous avez travaillé un temps dans des cabinets ministériels. Et puis vous avez écrit un roman politique qui s'est transformé en essai sur Saint-Simon. Alors, est-ce l'écrivain ou le politique qui observe le mieux les rapports de pouvoir dans la société, selon vous ?
Je pense qu'on a en France une tradition qui a toujours mêlé littérature et politique. En fait, quand on y pense bien, il y a eu beaucoup de mémorialistes qui ont eu des responsabilités politiques, il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui ont voulu faire de la littérature, il y a eu des conseillers du prince qui se sont mis à écrire, et ça remonte à l'Ancien Régime, hein, c'est assez ancien. Donc il y a une tradition comme ça d'entremêler les affaires publiques et les affaires privées. Enfin, il y a une continuité du passé et dans l'écriture politique. Donc moi, c'est vrai que j'avais commencé à écrire un roman. J'ai préféré le transformer en essai parce que ma propre intrigue me passionnait moins que les écrits de Saint-Simon, à vrai dire, ses mémoires. Et puis c'était l'époque où on pouvait quand même se lancer en littérature avec un essai littéraire, quoi. On n'était pas obligé d'écrire son premier roman, même si c'est un totem quand même bien parisien et français.
Là, vous dites ça avec une pointe d'ironie réprobatrice.
Oui, mais oui, parce que je vois, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une rentrée littéraire en fiction. Alors bon, je dis fiction, moi, le livre que j'ai écrit, c'est un récit, hein, que les choses soient claires, je ne maquille pas en roman, tout ce que je raconte est vrai. Donc c'est un récit autobiographique, mais je me rends compte qu'en fait, dans les rentrées littéraires, il n'y a presque plus de place pour en fait, les essais littéraires. En fait, on est tous maraboutés par les romans, les fictions, les premiers romans, les romans. Enfin bon, c'est un effet du marché, je pense.
Well, I think I've made it because I drink so much of it, and I painted it, and I really love it, and I save every bottle, and the older the bottle, the better it is. And then the best thing about the Coca-Cola is it costs the same amount of money and different people can be drinking it, like really famous people can be drinking, like the president could be watching TV and drinking a Coke, and I could be watching TV and drink a Coke at the same time.
Andy Warhol, qui fait l'éloge du Coca-Cola. Cécile Gilbert, en 88, vous inscrivez à Columbia University, à New York, pour la forme. Et vous dites de cette période qu'on pouvait vous trouver beaucoup plus facilement devant un saladier de cocaïne qu'à la bibliothèque de la fac, et notamment avec ce qui restait de la bande de Warhol ou d'autres écrivains assez prestigieux.
Et oui, j'étais à New York en 88. Ça, c'était aussi une petite récompense après mes études de philo et le reste. C'est-à-dire que c'était le moment où voilà, je pouvais passer un an à New York pour parler mieux anglais. Et en fait, j'étais tellement fascinée par New York et tout ce que je découvrais. Et c'était la première fois que je partais si loin, toute seule, sans personne pour me surveiller. Et donc, je me suis retrouvée très vite dans les boîtes de nuit et dans pas mal de vernissages et de raouts. Et c'est vrai que c'était la dernière année de Basquiat. Je me souviens, il y avait Basquiat qui était encore là. Et
Fred Easton Ellis, James McInerney.
Exactement, que je rencontrais au Limelight ou chez Nels. Et, ils étaient déjà les affreux Jojo hein, de la littérature américaine. C'est amusant.
Vers 14 ans, vous étiez baudelairienne. Vous avez perdu votre virginité, j'ose le dire, puisque vous le racontez dans votre livre. Ça correspond aussi à votre première prise de LSD et de cannabis et à la découverte de Pascal. Qu'est-ce qui s'est passé à 14 ans pour que tout se rassemble comme ça ?
Alors,
parce que Pascal, c'est pas anodin, vous étiez dans une pension de bonne sœur à l'adolescence aussi.
Ah oui, alors j'étais dans une pension de bonne sœur, mais j'avais un professeur de lettres absolument fascinant, une femme que j'adorais, qui m'a vraiment beaucoup plu. Et cette femme avait deux passions qui étaient Baudelaire et Pascal. Et donc, il faut croire qu'elle nous a communiqué un enthousiasme fou, parce qu'en fait, l'un n'empêchait pas l'autre. Et elle nous a ouvert comme ça beaucoup à la littérature. Bon, et par ailleurs, je lisais beaucoup. Hein, j'étais fille unique jusqu'à 10 ans, donc j'ai lu beaucoup. Et puis après, j'avais un petit frère, donc c'était un enfant, et je ne pouvais pas dialoguer avec lui. Donc j'étais pas mal enfermée dans ma chambre à lire. Et Pascal, j'imagine qu'il y a une forme de mysticisme, de toute façon, il y a un appel vers l'absolu, il y a quelque chose qui tourne autour de Dieu, et voilà, il y a une chez Baudelaire, il y a cette désespoir, et en même temps, ce désir désespéré d'avoir la foi qu'il n'a sans doute pas. Et bon, tout ça s'agitait dans ma tête et la lecture des maudits n'empêchait pas la lecture des bénis.
Marguerite Duras disait que elle remplaçait l'absence de Dieu par l'alcool. Vous, vous avez goûté à beaucoup de drogues. Est-il vrai que vous avez fêté vos 40 ans dans une orgie de cocaïne, puis vous avez arrêté ?
Oui, absolument.
Pourquoi ?
Parce que j'ai considéré que... Enfin, j'ai ressenti, c'est pas considéré, c'est pas du tout intellectuel, c'est qu'à partir de 40 ans, je me suis aperçu que j'avais plus envie d'être dans des états de conscience altérés, et que... Alors je sais pas si parce qu'à l'époque je fumais une herbe qui était trop forte, j'avais des sensations de mort imminente, mon cœur se mettait à battre, c'était pas du tout agréable, donc c'est pas le but quand on prend des substances psychotropes de se mettre à flipper ou à se sentir dans un inconfort, donc j'ai préféré arrêter. Et ça ne m'a pas du tout coûté parce qu'en fait bon, j'étais une consommatrice occasionnelle et récréative comme on dit, donc...
Ça ne vous manque jamais ?
Non. En fait, j'ai compris un jour, mais ça, on en parlera peut-être plus tard, c'est que j'ai compris que la cesse pouvait être transformée en jouissance. Et le jour où j'ai compris que je pouvais aller dans une fête toute une nuit sans boire une goutte d'alcool et sans fumer une cigarette, ça a été une grande victoire.
La musique du film Les joueurs d'échecs de Satyajit Ray que vous citez, Cécile Gilbert, dans Feu sacré, un livre qui raconte notamment votre rapport à l'Inde, à sa spiritualité, qui ne furent jamais évidents, parce qu'il y a eu, au tout début et pendant longtemps, une grande résistance, alors que plein de gens voulaient à tout prix vous mettre la tête dedans. Et vous mettiez plus souvent la tête dans des saladiers de cocaïne, apparemment.
Non, mais il ne faut pas non plus faire un portrait de moi en délurée complète.
Mais c'est pour que le contraste soit d'autant plus fort.
C'est vrai que j'appartenais à une famille où la spiritualité indienne était importante. J'avais une tante qui était aussi ma marraine et qui était devenue, au cours des années 70 et 80, un professeur de yoga émérite qui avait été initié par un grand maître à Madras qui s'appelait Desi Kachar, qui était lui-même le fils d'un immense maître... qui avait introduit le yoga en Europe. Et puis par ailleurs, il y avait son frère, c'est-à-dire aussi le frère de ma mère, qui, à la suite de circonstances tragiques dans sa famille, est allé rencontrer un grand sage dans le sud du Kerala. Donc ces deux personnes, avec beaucoup de bienveillance et d'attention pour moi, avaient envie de m'entraîner vers cette pente. Et moi, c'est pas que j'ai m'y opposé, mais disons que je considérais que ce n'était pas mon affaire à l'époque. Et à l'époque, moi, mes feux sacrés, c'était plutôt ceux de la littérature et de la poésie. Mais j'accueillais ça avec quand même un certain respect. Et de toute façon, il y avait toujours une grande tolérance pour les aventures spirituelles des uns et des autres dans cette famille.
Est-ce que vous pouvez raconter la Trinité maudite de l'hiver qui correspond au 29 novembre, 29 décembre et 29 janvier.
Oui, alors le 29 novembre, c'est mon anniversaire. En général, les gens aiment bien leurs anniversaires. C'est une fête, hein, on dit la fête de la naissance et tout ça. Moi, j'ai jamais aimé tellement le fait d'être né en hiver. D'abord, je déteste l'hiver. C'est vraiment une saison très difficile. Je me suis longtemps interrogée pour savoir pourquoi j'aimais pas mon anniversaire, l'hiver. Bon, c'est compliqué. Et puis c'est vrai que j'ai eu pas mal d'épreuves qui sont toujours déroulées en hiver. Le 29 décembre, mon cousin s'est suicidé. Alors c'était bizarre parce que c'était aussi l'anniversaire de naissance de ma tante. Et puis c'était le jour de mon baptême, le 29 décembre. Et puis le 29 janvier, ça a été des années plus tard, ça a été la date à laquelle on a trouvé le cadavre de mon frère qui était sans doute mort depuis 15 jours. Et bref, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que voilà, il y avait une sorte comme ça de malédiction des dates, mais qu'en même temps, elle dessinait quelque chose qu'il fallait que j'élucide, en fait. Parce que aussi, ces dates d'hiver ont été aussi les dates où finalement je m'enfuyais en Inde, l'hiver. J'ai essayé de fuir cette saison difficile, et c'est principalement en hiver que je suis allé en Inde. Tout ça s'est entremêlé, et en fait, il a fallu vraiment que je... me mettre à écrire Feu Sacré pour comprendre un peu comment s'étaient articulées à la fois ces dates, qui étaient à la fois lumineuses et obscures, et comment finalement j'avais réussi, enfin, mais comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que tout le monde, à l'occasion d'épreuves, finalement, peut saisir la face lumineuse ou initiatique de l'épreuve. Et c'est ça que j'essaye en fait d'élucider dans Feu Sacré.
Ce qui est frappant dans Feu Sacré, c'est que c'est une quête initiatique et presque toutes vos plus grandes avancées sont faites après des décès. Donc des renaissances après des décès, des progrès grâce à des décès. Et ça commence d'ailleurs, votre intérêt pour l'Inde, par la mort d'un prince indien.
Oui. un jour, je lisais un article, on était en 2017, j'étais encore un petit peu triste parce que... accablé par le décès de mon frère qui avait eu lieu trois mois plus tôt. Et puis je tombe sur cette histoire d'un prince indien qu'on a retrouvé mort dans son palais tout délabré, dans une forêt de Delhi. Et évidemment, ça me rappelle les tristes circonstances de la mort de mon frère. Et je commence à un peu gamberger autour de ça. Et je me dis, il faudra sans doute que je fasse quelque chose avec ça, parce que ça éveille un écho, ça éveille une réminiscence. Et donc je commence effectivement le prologue du livre... avec cet événement, et pour expliquer aussi voilà, pourquoi, de toute façon, ça avait retenu mon attention, parce que ça se passait en Inde, que Delhi est une ville que je connais, etc. J'ai même voyagé dans cette région d'où était originaire ce fameux prince Cyrus. Hein, Alors, je ne le dis pas dans le livre, et ça, c'est amusant, mais je me suis rendu compte par la suite que c'était un imposteur, en fait. Il n'était pas du tout prince.
Mais il était mort.
Mais il était mort, ça c'est sûr, et sa mère aussi, sa sœur aussi. Enfin bref, c'était une famille un petit peu énigmatique. Et donc j'ai essayé de tirer les fils à partir de ces réminiscences et de ces coïncidences pour écrire Feu Sacré. Et en fait, ce qui m'a fasciné en l'écrivant et ce qui a été difficile aussi, c'est que, après tout, j'aurais pu raconter depuis fort longtemps toutes sortes d'événements que je raconte dans ce livre. Parce que, en fait, ce livre couvre des décennies. Hein. Il commence quand je suis enfant et puis finit quasiment aujourd'hui. Mais en fait, il finit pas, parce que les coïncidences continuent et j'aurais pu rajouter 100 pages pour en raconter davantage. Mais bon, à un moment, il faut quand même arrêter un livre. Et c'est vrai qu'à chaque décennie de ma vie, il y a eu un décès initiatique. Parce qu'en fait, c'est pas la mort en fait, qui est initiatique, c'est plutôt l'amour que ça... que ça réverbère et que ça libère dans l'expression la façon dont ça déverrouille le cœur, dont ça assouplit, dont ça brise un peu les carapaces qu'on peut se construire quand on est, surtout comme j'étais, une adolescente un peu claquemurée dans la révolte et une sorte de mal-être, à vrai dire. Que je prenais pour une expression de la liberté, de ma souveraineté, mais qui en fait, à l'époque, je m'en rends bien compte, était plutôt l'expression d'un mal-être.
Il a été dissous, ce mal-être ?
Oui.
Il y a des vestiges ?
Bah, parfois, je suis un peu ombrageuse, un petit peu sauvage, je me ferme, j'ai l'air d'une tragédienne. Bon, là, je ne sais pas ce qui me traverse à ce moment-là, mais bon. Mais je pense qu'évidemment, le mal-être s'est dissipé, évidemment.
Et la synchronicité, là, que vous évoquez, toutes ces coïncidences, vous y croyez comme Jung, que vous citez dans le livre ?
C'est pas que j'y crois, c'est que je les remarque. Y croire n'a pas tellement de sens, à vrai dire, mais je pense que voilà, j'ai voulu écrire le livre quand je me suis rendu compte que c'était un motif poétique et que c'était finalement quelque chose qui, dans la vie, permet un peu d'enchanter la trivialité du quotidien. C'est-à-dire que si on y fait attention, je pense que tout le monde reçoit des signes, ou se dit « tiens, c'est un signe », ou « tiens, il y a une coïncidence de date », ou « tiens, il se passe cette chose au moment où je pense à cette chose ». Et là, on n'arrive pas à savoir si c'est un effet de la réalité quantique, comme disent certains, ou si... En tout cas, c'est d'y prêter attention qui rend les choses féeriques, qui rend la vie féerique, mais par ailleurs, je pense, alors là profondément, que chaque existence a une sorte comme ça, pas de destin, mais une sorte de motif que nous devons élucider. En fait, rien n'est complètement arbitraire et gratuit. Alors, certains diront, mais oui, mais il y a des choses qui se répètent à cause de l'inconscient. Sans doute, forcément. Mais ce n'est pas sur le plan de l'inconscient ou du freudisme, moi, que j'analyse les choses. Je les analyse comme des surgissements que nous devons saisir, ou pas. Mais en tout cas, quand on saisit, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain motif de son existence qui se dessinait, écoutez, ça pouvait être des rencontres avec certains êtres, ça pouvait être des rencontres avec certains livres. Et en fait, quand on a une certaine disposition spirituelle, finalement, on ne fait que tomber et que rencontrer. Et il vous arrive des choses quand même qui sont assez fascinante. Donc, finalement, comme disait Simone Veil, l'attention, c'est peut-être une façon de faire des prières pour dans le monde profane, quoi. Prêter attention aux choses.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Cécile Gilbert, en lisant votre récit « Feu sacré » dans lequel vous citez « Dharma » de Jack Kerouac, je lis la phrase, je la trouve très belle, « Tout écrit qui n'est pas une façon de s'éclairer soi-même pourrira comme un corps », on apprend que l'horreur de la Shoah est peut-être à l'origine du Club Med. Vous pouvez nous éclaircir ?
Oui, alors, beaucoup d'auditeurs doivent savoir que le Club Méditerranée a été fondé par un homme qui s'appelle Gérard Blitz, qui était originaire de Belgique et qui appartenait à une dynastie judéo-belge de diamantaires, et que cet homme, à la suite d'exploits de résistance pendant la guerre, en fait a été chargé par le gouvernement belge d'accueillir d'anciens déportés, et donc il a eu l'idée de louer un hôtel et de les réacclimater à la vie, et en fait cette expérience a été à l'origine en fait de l'imagination qu'il a pu avoir de créer des nouvelles formes de vacances qui seraient à la fois sportives, conviviales. Et donc c'est comme ça en fait, qu'il a inventé le Club Méditerranée. Mais ça a été l'expérience séminale, comme on dit, de cet accueil des déportés. Donc c'est assez surprenant. Quand j'ai appris ça, j'étais assez étonnée. Et il se trouve que Gérard Blitz était l'amant de ma tante, que je l'ai bien connu dans ma jeunesse et mon enfance. Et qu'il est lui-même devenu, par la suite, il a un peu laissé tomber. Enfin, il a créé le Club Méditerranée, il a dirigé pendant un certain temps, il a tout inventé grâce à sa femme. Mais très vite, il s'est passionné pour les spiritualités orientales. Il était très ami de grands maîtres indiens, de grands maîtres du zen japonais. Et très vite, il s'est fait lui-même ordonner moine japonais au début 73-74. Et il avait été lui-même initié par ce fameux Desikachar dont j'ai déjà parlé, et donc c'est comme ça qu'il a aussi initié ma tante et qu'ils sont tous les deux devenus des personnages importants dans le monde du yoga français à cette époque. De 21.
C'est All By Myself d'Eric Carmen qui vous a accompagné, Cécile Gilbert, pendant le deuil de votre cousin Emmanuel, avec lequel vous étiez en fusion, où vous offriez des livres, vous étiez fusionnels, en révolte tous les deux, puisqu'il vous faisait lire quand même du Tony Duvert.
Oui, mon cousin, nous étions presque jumeaux, parce qu'en fait nous étions nés à un mois d'écart, et moi j'étais fille unique, comme je l'ai dit, et en fait j'avais quand même deux cousins, lui et sa sœur, Valérie, et en fait c'était un petit peu une fratrie pour moi, je les voyais très souvent, les petites vacances scolaires, les grandes vacances, et donc on était très proches, Emmanuel et moi, et on partageait le goût effectivement de la poésie, de l'absolu, on se prêtait des livres, on en volait, on s'en faisait lire, et lui effectivement m'a fait lire Tony Duvert, Journal d'un innocent, on ne se rend plus compte à l'époque, mais c'était fou cette histoire, quand on voit ça aujourd'hui, on en croit pas ses oreilles, mais on était assez délurés tous les deux. Et lui était gay et il fréquentait sans doute des hommes plus âgés. Enfin, c'était assez mystérieux pour moi, mais en tout cas, il lisait Genet, il lisait Duvert, il aimait Pasolini. Enfin,
sa mort a été une des premières déflagrations. Et puis il y a eu celle de votre grand-mère Lucie, une des personnes les plus importantes de votre vie. Et chose très surprenante, en fait, ça devient presque spirituel à ce moment-là, alors que pourtant vous résistez à tous les appels de votre tante et de ses compagnons. Vous veillez son corps pendant sa mort, pendant son agonie.
Oui, ma grand-mère, qui était en très bonne forme et qui avait 90 ans, un jour a décidé de se laisser mourir un peu comme une grande stoïcienne qu'elle avait toujours été ou voulu être. Et moi, je croyais qu'elle avait décidé de se laisser mourir et qu'on pouvait mourir assez vite. En fait, pas du tout. L'agonie, ça peut durer très longtemps quand on n'a pas de maladie. Et donc, je crois que ça a été le plus grand choc. Le plus grand choc que j'ai eu, ça a été ça, finalement. Parce qu'en fait, la mort de mon cousin, j'avais 17 ans, c'était une mort qui s'est passée loin de moi. Je ne suis pas allée à ses obsèques, je n'ai pas vu son corps. Il a été escamoté, si vous voulez. Mais là, quand ma grand-mère a dit « je vais me laisser mourir », je suis allée à son chevet. Elle vivait à Nîmes, moi à Paris. Je me suis éternisée et c'est devenu une expérience tout à fait fascinante parce qu'au début j'étais révoltée, folle de chagrin et je pleurais tout le temps. Et puis après j'ai fini par accepter qu'elle veuille se défaire de la vie et que elle pouvait pas se suicider, mais elle pouvait se laisser mourir. Et ça a été vraiment de la veiller, de rester auprès d'elle. Ça a été quelque chose de très fort. Et c'est la première fois que j'ai tenu un journal, d'ailleurs, où je notais tout. En fait, quand je rentrais le soir chez ma mère, j'écrivais tout sur toutes mes émotions, tout ce qui m'avait traversé, tout ce qu'elle m'avait enjointe, en fait, de faire. Parce que quand j'avais commencé un petit peu à écrire jeune, tout le monde écrivait dans ma famille, bon, pas pour être publié, mais pour le plaisir de s'exprimer. Et d'ailleurs, certains étaient très doués, comme mon oncle, il écrivait très bien. Ma grand-mère m'avait toujours dit, tu dois exprimer tes émotions, noter ce que tu ressens, ça sert à rien de décrire les choses comme ça, bêtement. Bon, j'avais jamais rien fait de... Bon, si, j'avais déjà écrit des livres, mais j'avais écrit des essais. Et là, j'ai vraiment noté mes émotions, et ça a été une expérience donc très forte. Et surtout, ça m'a, je crois, ouvert le cœur. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fissuré, une sorte d'armure que j'avais. Et je crois que ça a été une gratitude immense pour ma grand-mère qui m'a offert cette agonie, qui m'a permis de rester près d'elle. Et elle m'avait élevée, donc c'était quand même quelqu'un de très important pour moi. Elle s'était beaucoup occupée de moi, elle m'avait beaucoup transmis. Elle avait été très autoritaire, très femme de poigne et dame de fer, mais je dois beaucoup quand même.
Vous dites que vous avez longtemps été incapable de manifester de la tendresse pour autrui et que justement sa mort a fait que quelque chose s'est déverrouillé dans votre cœur. Mais ce qu'il y a d'étonnant, quand on sait ça, c'est que vous recopiez des passages du journal que vous teniez à l'époque, et c'est très beau ce que vous recopiez, et vous ne pouvez pas vous empêcher, Cécile Guilbert, puisque vous détestez la mièvrerie, de dire « recopier ces mièvreries sentimentales, mes cœurs ». Vous êtes dur avec vous-même quand même.
Mais oui, parce que quand on écrit un journal, je suis bien placée pour le savoir, parce que j'ai tenu un journal quand mon mari Nicolas était en réanimation. Donc tous les soirs je m'épanchais, mais comme je m'épanchais, évidemment, c'était d'une sentimentalité, d'une pleurnicherie absolument abominable, et je pouvais évidemment rien faire avec ce journal. Et quand j'ai écrit Réanimation, il a fallu que je dépasse complètement ça et que je mette un peu les choses à distance. Et il y a eu un certain temps avant que j'écrive ce livre, d'ailleurs. Mais là, je me suis servi directement des matériaux de ce journal. Et c'est vrai que dans un journal, forcément, on est collé sur l'événement, donc on se laisse aller. De toute façon, ce n'est pas destiné à publication. Mais ça m'amusait de le reprendre. Et j'avoue que je dois dire que je n'ai rien bougé du tout, rien changé. Je ne l'ai pas du tout réécrit. Hein. Il est vraiment authentique. Mais c'est vrai qu'en le recopiant, je me disais, oui, c'est quand même un petit peu écœurant, c'est des goulinades.
Je vous trouve sévère. La spiritualité indienne, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi ce soir, Cécile Guilbert, vous allez mettre du temps à flirter avec, à la pénétrer, à vous en pénétrer. Vous êtes très nietzschéenne, mais vous dites tout de même, parce que tout le monde dit oui, Nietzsche s'intéressait à la pensée indienne et au bouddhisme, vous vous dites que c'était superficiel comme intérêt.
Et oui, parce que j'ai bien traqué en fait ce que Nietzsche racontait sur l'Inde. En fait, il était intéressé par les lois de Manu, qui est un texte indien très ancien et très important. Mais en fait, ce qui l'intéressait, c'était les castes, c'était la hiérarchie, c'était le principe hiérarchique, et c'était aussi de dégommer le christianisme. Et en fait, c'est vrai, quand j'étais étudiante en philo, en fait, beaucoup de philosophes que j'admirais se moquaient complètement de l'Inde.
Hegel,
c'est abominable ce qu'il dit. J'ai plus la citation.
Ah bah
en
moi,
tête.
Je peux la lire parce qu'elle est vraiment
là.
Les seulement de l'âme indienne pénétrant dans la vacuité est plutôt une manière d'abrutissement qui ne mérite peut-être même pas le nom de mysticisme et qui ne peut conduire à la découverte d'aucune vérité car il est dépourvu de contenu.
Mais voilà, alors donc Hegel c'est terrible, Nietzsche c'est superficiel, Heidegger il s'intéresse pas du tout à l'Inde, il s'intéresse qu'à la Grèce et un petit peu au Japon, parce qu'il rencontre un jour un philosophe japonais. Et en fait, Schopenhauer, que je déteste à l'époque, puisque je suis trop nietzschéenne pour aimer Schopenhauer, il n'y a que lui qui s'en tige des Upanishads et tout ça. Donc à l'époque, en tant que voilà, philosophe en herbe, je trouvais pas que c'était terrible.
Vous le détestez toujours ?
Pardon ?
Schopenhauer ? Il est si drôle.
Oui, alors Schopenhauer, je suis un peu revenu là-dessus, évidemment, parce qu'il y a des choses quand même très bien. Et puis, j'ai découvert, en fait, en creusant un peu dans les livres, mais c'est pas par les livres qu'on peut accéder à cette spiritualité, même si on peut en avoir une connaissance livresque, mais c'est pas intéressant d'avoir une connaissance livresque. Il faut, c'est une connaissance existentielle et incarnée. En tout cas, quand même un petit peu intrigué par toutes ces affaires, et surtout avec les contacts familiaux que j'avais avec cette spiritualité, puisque précisément les gens de ma famille avaient rencontré des incarnations, donc ils étaient beaucoup plus enthousiastes que moi. J'ai quand même découvert que la pensée indienne, et c'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce que c'est un enchevêtrement de doctrines, de contre-interprétations, et ça dure depuis des millénaires. Il n'y a pas un hindouisme, ça n'existe pas l'hindouisme. Hein. Il y a des formes religieuses qui sont l'hindouisme, mais la pensée qui est derrière tout ça est assez, assez complexe. Elle est écrite dans des traités, et notamment par un grand philosophe qui est du calibre de Hegel, en fait, qui est un grand dialecticien et quelqu'un qui manie à la fois une pensée spéculative de haut vol et en même temps une pensée aussi religieuse et mystique.
Qui est-il ?
Qui s'appelle Shankara, et qui est le grand philosophe de ce qu'on appelle l'Advaita Vedanta, l'ultime philosophie védique, hein, des védiques. Mais je ne peux pas rentrer trop dans trop de développement, mais enfin, cette pensée védique, c'est la pensée la plus ancienne de l'Inde, qui a donné lieu à diverses interprétations, et après il y a eu des dérivés, etc. Mais disons que c'est une pensée de l'unité, où en fait, l'âme individuelle ne se différencie pas de l'âme universelle. Voilà, on pourrait dire ça pour aller vite. On pourrait dire que l'âme individuelle est à l'âme universelle, ce qu'une goutte d'eau est à l'océan, ou ce qu'un arbre est à une forêt. C'est la même substance. Donc à partir de... C'est ça qu'il faut atteindre, et c'est ça qu'il faut comprendre.
Ça sonne un peu Spinoza, là.
Bah, Spinoza, c'est plutôt, disons, l'immanence tout est Dieu, quoi. Ça peut sonner un peu Spinoza, mais en fait, il faut quand même bien comprendre que chaque être a ce divin, et ce divin, en fait. Et donc, ça ne sert à rien de s'identifier à tout ce dont... À quoi on s'identifie, surtout aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est une pensée formidablement libératrice par rapport à notre époque, parce que notre époque est complètement entichée d'identité et d'assignation identitaire, que ce soit de genre, de sexe, religion, culture... profession, toutes ces histoires de transfuge de classe, qu'est-ce que c'est sinon des assignations, des identités, etc. Toutes les problématiques identitaires, suprémacistes, qu'est-ce que c'est ? C'est des fausses identifications. Donc, je trouve que cette pensée, finalement, védique, de l'Advaita Vedanta, est complètement libératrice par rapport à tout ça.
Moi, je suis pour une orgie spirituelle internationale. C'est votre choix musical, Cécile Gilbert, Cold Song de Klaus Nomi.
Oui, Non, j'adore cette air, mais c'est parce que j'adore cette air qui est originellement cette air de Purcell dans l'opéra King Arthur, et qui est le génie du froid, qui va être réveillé par Cupidon, qui est voilà, englué dans cet hiver qu'on déteste, hein, il est tout gelé, et en fait la flèche de Cupidon va venir le dégeler, l'éveiller à la vie. Donc je trouve que c'est parfaitement d'actualité pour ce que je raconte. Et par ailleurs, c'est une très très belle, c'est un air sublime, hein, de contre-ténor. J'aime beaucoup les contre-ténors, en fait, parce que je m'identifie beaucoup aux contre-ténors quand j'étais plus jeune, parce que j'ai la voix assez grave, donc je me disais, j'aurais pu être contre-ténor, moi aussi.
C'est pas trop tard.
Non, jamais trop tard. Et puis Klaus Nomi, bon voilà, c'est la figure des années 80, c'était pour nous une sorte d'icône. Hein.
Pour quiconque vient de l'Occident, Bombay reste traditionnellement la porte d'entrée de l'Inde. Mais à peine arrivé, on se sent euphorique. Le premier étonnement, c'est la foule. Par dizaines, par centaines, par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, par millions, hommes et femmes forment ici un fleuve incessant. Fleuve qui n'a pourtant pas encore emporté, ni renversé, ni broyé, ni anéanti, les vestiges déçus de ce que les colons britanniques, les musulmans, les parsis et autres avaient installé sur ses bords. Le soleil, l'ombre, le vent, la mousson, la sécheresse, ont donné une patine semblable à tous ces hommes et à toutes ces femmes de religions et de races différentes.
On se rapproche peu à peu de l'Inde avec vous, Cécile Gilbert. Vous découvrez le film Inde, Terre, Mer, le documentaire de Roberto Rossellini sorti en 59, à peu près au même moment que End Time City de Michael Ackerman, consacré à Varanasi, dont le vocable dégradé est Benares. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était les morts qui vous faisaient avancer. Et vous avez enfin accepté d'aller en Inde, puisque votre oncle Tito était en train d'y mourir.
Oui, en fait j'étais déjà allée en Inde une fois, mais je considérais que c'était pas l'Inde, parce que j'étais allée en vacances à Goa, qui est un ancien comptoir portugais, où il y a encore beaucoup de catholiques, et puis bon, c'est la plage, c'est les tropiques, quoi. Bon, c'est pas l'Inde pour moi. L'Inde hindoue, l'Inde védique, je l'ai rencontrée dans cet ashram du Kerala où je suis allée faire mes adieux à mon oncle, et où j'ai rencontré ce fameux grand maître, hein, qui était d'une lignée de grands maîtres de l'Advaita Vedanta. Et ça a été si fort que j'ai voulu retourner en Inde, et j'y suis retournée par la suite, j'ai fait beaucoup de voyages. Avec mon mari Nicolas, et sans doute les voyages qui m'ont le plus marqué, c'était à Benares, qui était l'Inde hindoue, vraiment la ville la plus sacrée de l'Inde, où les morts brûlent sans interruption depuis la nuit des temps, et où il y a un feu qui est allumé là, auquel on allume tous les autres bûchers, et qui brûle depuis des millénaires, puisque c'est la ville la plus ancienne du monde, paraît-il.
Et ce qui est étonnant, c'est que après tant de résistance, quand vous arrivez en Inde, vous vous sentez immédiatement chez vous, et quand vous croisez le maître de votre tante Colette et de votre oncle Tito, vous le regardez et il se passe quelque chose qu'on peut qualifier de darshan. Qu'est-ce que c'est ?
Le darshan, c'est quand on est vu par le divin. Alors, c'est vrai que j'avais toujours entendu parler de ce maître. Alors vous savez, bon, ça crée beaucoup d'ironie et ça crée beaucoup de malentendus, cette histoire de gourou en Inde, parce qu'en fait... Un gourou chez nous, G-O-U-R-O-U, c'est une sorte d'arnaqueur ou d'imposteur.
Dans une secte.
Voilà, il faut savoir qu'en Inde, il y a aussi beaucoup d'imposteurs et d'arnaqueurs et de faux gourous, donc c'est ça qui est aussi compliqué. La grande question en Inde, c'est de savoir discriminer et comment reconnaître le vrai gourou. Mais en sanskrit, gourou, G-U-R-U, ça veut dire qui dissipe les ténèbres. Donc c'est quelqu'un qui vous éclaire et qui vous éclaire au sens des lumières, quoi. Au sens des lumières. Donc si vous voulez, cette collision entre lumières, les lumières qu'on a chez nous, qui sont les lumières de contre l'obscurantisme, et les lumières qui sont là-bas, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est intéressant, quand on est un disciple des lumières et une amoureuse du XVIIIe siècle, de rencontrer un autre type de lumière. Alors c'est compliqué d'expliquer en quoi ces grands maîtres, hein, qui ont été reconnus par des disciples et qui sont d'authentiques enseignants de cette pensée, de cette philosophie, de cette sagesse, puisque ce sont des grands sages aussi, c'est difficile de faire comprendre en quoi ils se différencient de nous. Parce que d'une certaine façon, ils ne se différencient pas de nous. Ils sont exactement, ils vivent comme nous, ils ont des perceptions cognitives, ils ont un entendement, une volonté, etc. Mais ils sont installés aussi dans un autre site. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre. Et en tout cas, une des façons de le saisir intuitivement, c'est de souvent croiser leur regard. Et c'est pas parce qu'ils ont un regard de velours comme tous les Indiens qui ont des grands cils noirs et tout ça, c'est pas du tout ça. C'est un regard très magnétique qui peut vous foudroyer, enfin qui peut vous foudroyer. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc vous questionnez évidemment ce qui vous arrive, vous demandez si c'est une illusion, si c'est parce que vous êtes pris dans le contexte culturel et que vous avez envie de vous laisser aller à cet environnement, et puis il peut se passer d'autres choses, et puis vous approfondissez, vous rendez compte que finalement, à partir du moment où vous avez croisé ce regard, quelque chose donc s'est passé au niveau existentiel, au niveau de votre sensibilité, parce qu'en plus c'est des êtres qui vous... Comment dire? C'est pas qu'ils vous font fondre, mais qui font... Oui, qui dissipent toutes les postures, d'une certaine façon. Qui vous percent à vif, aussi. Ou qui vous percent à jour. Et à ce moment-là, leur discours, ce qu'ils racontent, que vous lisez dans les livres, devient beaucoup plus clair et devient limpide. Donc c'est vraiment ce qui permet de dépasser le côté intellectuel de ce que vous pourriez lire dans des livres, en fait. Ça s'incarne, tout d'un coup, ça s'incarne.
Le malheur est inséparable de la souffrance physique, et pourtant tout à fait distinct. Dans la souffrance, tout ce qui n'est pas lié à la douleur physique ou à quelque chose d'analogue est artificiel, imaginaire, et peut-être anéanti par une disposition convenable de la pensée.
Cécile Guilbert, vous avez trouvé de la consolation dans les textes de la philosophe Simone Weil, notamment « L'amour de Dieu et le malheur » dont on entend l'extrait que vous citez dans votre livre.
Oui, j'ai trouvé de... Voilà, parce que ça c'est voilà, aussi Simone Weil, quelqu'un qui est capable de discriminer et d'éclairer aussi, comme tous les gens qui sont habités par quelque chose d'ordre spirituel en fait. C'est-à-dire que quand j'ai beaucoup souffert après la mort de mon frère, j'ai trouvé ce texte, et d'ailleurs que j'ai trouvé parce que j'avais une commande éditoriale, il fallait que j'écrive, j'étais bien incapable d'écrire à ce moment-là, j'étais un petit peu trop fracassée, mais j'ai trouvé effectivement des éclaircissements dans ce texte où elle différencie la souffrance du malheur. Et en fait, c'est étonnant parce que Simone Weil a été elle-même toute juive convertie qu'elle était, elle avait été aussi très frappée par la philosophie indienne et les Upanishads qu'elle avait connus grâce à son ami de Cagne, René Daumal. Et donc elle a fait bien sienne en fait cette philosophie parce qu'elle elle aussi rejette les fausses identifications au malheur. Elle dit que les vrais malheureux c'est pas les gens qui souffrent parce que ils souffrent physiquement ou qui souffrent moralement. Les vrais malheureux du monde ce sont les gens victimes des guerres, les migrants qui n'ont plus rien, les génocidés, ça peut être les gens rescapés de la Shoah. Ça c'est le vrai malheur. Ça c'est le vrai malheur, le fond du malheur. Mais la souffrance, en fait, la souffrance morale ou physique, en fait, peut être combattue et peut être jugulée par une disposition spirituelle ou mentale qui serait convenable. Bon, on peut pas développer, mais ça m'a pas mal aidé. Et puis, m'ont aidé aussi la beauté, parce que j'ai eu la chance quand même d'être envoyée en reportage. On m'a prêté un appartement à Venise après ce grand deuil, etc. Donc la beauté aussi m'a sauvée, ça a été salutaire. Et puis aussi d'autres lectures, et puis la découverte du yoga. Enfin, il y a beaucoup de choses hein, dans ce livre. Le yoga auquel j'avais résisté toute ma vie, finalement j'ai été obligée d'en faire par la médecine. Les médecins m'ont dit, si vous n'en faites pas, vous serez toujours malade. Bon.
Et puis c'est aussi après un décès que vous en avez fait avec une sorte de... double de votre frère. Est-ce qu'on dit son nom et on termine sur son nom?
Oui.
Srivenudas.
Srivenudas, qui est un yogi indien qui vit à Paris et qui, d'ailleurs, dont j'ai découvert, d'où la beauté des coïncidences, qu'il vivait, sa famille vivait à quelques kilomètres de cet ashram où j'étais allé, qu'il connaissait très bien, qu'il avait connu ce maître et que lui-même était un shivaïte. Un Vedantin, comme on dit, un disciple de l'Advaita Vedanta, et voilà, qui m'enseigne depuis 12 ans à Paris.
Et pour terminer sur la beauté, il y a une très très belle histoire au sujet d'un de ses chants, un de ses mantras, et d'une autre mort. Et je laisse les auditeurs la découvrir dans Feu Sacré. Merci beaucoup Cécile Guilbert.
Merci beaucoup Eva Bester.
Votre livre Feu Sacré est paru chez Grasset.
Cette émission, quant à elle, n'est pas parue chez Grasset, mais elle a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Élise Christophe.